En général, moi aussi, je pars à la même occasion parce que j'enseigne les adolescents, les jeunes à l'église d'Antony. Donc d'ailleurs, vous avez les salutations de l'église baptiste d'Antony, d'où je viens, donc à 25 minutes d'ici. Et c'est une joie pour moi à nouveau d'être présent parmi vous pour parler de la résurrection. Puis juste après le culte, on va même partager un repas ensemble, un repas de la Pâque juive. Et en tant que juif chrétien, en tant que descendant ethnique d'Abraham, Isaac et Jacob, mais appartenant au peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ pleinement, c'est une joie pour moi de tout à l'heure vous partager comment la Pâque juive est connectée à la Pâque chrétienne, donc on connaît, qu'elle est connectée à la résurrection de l'agneau de Dieu et qu'elle est connectée aussi à la Sainte Cène, au repas que le Seigneur a instauré. Toutes ces choses sont connectées et on en parlera tout à l'heure. Donc je suis un missionnaire avec Life in Messiah, c'est une mission qui apporte l'évangile au peuple juif partout en France. Et donc on fait de l'évangélisation et du discipulat aussi, faire des disciples. C'est ma principale activité avec ma femme, j'aurais voulu qu'elle présente, mais elle est avec les bébés. Alors on se retrouve en ce dimanche pour fêter deux choses, bien sûr la résurrection de notre Sauveur, mais aussi sa victoire sur la mort. Et ça, c'est très important parce que nous aussi, on va en bénéficier et on va voir pourquoi. Alors, dans le passé, le présent, le futur, toutes celles et ceux qui, comme moi et comme vous, se sont accrochés au Seigneur Jésus, le Messie, et qui ont fait de lui le Seigneur de leur vie, bénéficient de cette chose qu'on appelle une grâce immense, une faveur imméritée. C'est le pardon et l'expiation de nos péchés, un avenir glorieux et éternel dans le royaume de Dieu. Et nous tous qui sommes en Christ, on bénéficie de ça déjà maintenant, mais ça sera encore plus concret dans le futur, bien sûr. Mais le Seigneur nous a donné la victoire à la croix. Aujourd'hui, on est victorieux en Christ. Même si on a l'impression que les chrétiens ont mal ou que des persécutions ont lieu tous les jours à la télé, non, ça arrive, mais les chrétiens sont aujourd'hui et dès à présent victorieux en Christ. Amen. Alors, que l'on soit chrétien ou non, aujourd'hui en 2015, on ne peut pas ignorer le fait que le monde est rongé par des maux, des guerres, des violences en tout genre, la cupidité, le racisme, des désastres humanitaires, des fanatismes en tout genre. Il y a juste à ouvrir la télé pour s'en rendre compte ou lire les journaux. Mais savez-vous que les juifs à l'époque de l'Exode, donc il y a 35 siècles, ont fait un exode physique? Ils sont partis de l'Égypte, le pays de l'esclavage, vers le pays de Canaan. Donc, ils sont passés 40 ans dans le désert entre-temps, mais c'était vraiment un exode physique. Alors, nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu et nous, peuple de Dieu, nous avons fait un exode spirituel. Nous avons quitté l'Égypte, ce lieu d'esclavage du péché, et le Seigneur Jésus a cassé les chaînes par lesquelles la punition du péché passait. Donc, il a coupé net les chaînes de la condamnation. Bien sûr, on a toujours cette nature pécheresse qui nous colle à la peau, mais nous avons revêti Christ. Et quand Dieu nous voit, il voit un casier judiciaire vierge. Nous sommes blancs comme neige. C'est important de le souligner. On a fait un exode qui était spirituel. Alors, il y a plein d'autres groupes qui ont besoin de faire aussi un exode spirituel. J'en ai mis quelques-uns ici, vous pouvez peut-être reconnaître avec moi, mais imaginez qu'on a des amis, des collègues, des voisins qui sont dans ces groupes, des athées, des musulmans, des hindouistes, des gens qui s'intéressent qu'à la technologie, des gens qui sont contre Dieu, des gens qui sont homosexuels, des gens qui ont vraiment une haine pour les autres peuples, ou des gens qui sont très humanistes et qui pensent qu'à à la mère nature et qui ont remplacé Dieu par la mère nature. On a tous des exemples un peu comme ça dans notre entourage de personnes qui ont une idéologie qui a fait qu'il n'y a pas besoin de Dieu, il n'y a pas besoin d'être pardonné, il n'y a pas besoin de mener une vie qui plaise à qui que ce soit. C'est moi le chef de ma propre vie. Et on en connaît tous des gens comme ça. Mais on est appelé en tant qu'ambassadeur de Christ à aller vers ces personnes et les diriger, les pointer vers le même trésor qui a gagné notre cœur, qui est Jésus-Christ. Parce que ces personnes, sans ça, elles sont perdues. Et on a tous été ici, quelque part. On a tous été des pécheurs sous la condamnation. Mais la différence entre nous et les gens qui sont à l'extérieur, c'est que nous sommes des pécheurs pardonnés et qu'eux sont encore des pécheurs non pardonnés tant qu'ils n'ont pas fait cet exode vers le Seigneur Jésus. Okay, on parle d'exode aujourd'hui parce que c'est la fête de Pessah, de la fête de la Pâque juive et la fête de la résurrection aussi. Alors, bon, bien sûr, on a eu ces derniers mois des mots très violents dont on a pu voir. Rien que le 6, le 7, le 8, le 9 janvier, on a vu ce qui s'est passé à Paris avec les attaques terroristes. À la même période, il y a eu 10 000 chrétiens au Niger qui sont fait tuer par Boko Haram. On a eu Al-Qaïda, l'État islamique, tous ces groupes qui ont généré des tragédies. Et là, juste jeudi, par exemple, on a encore eu 147 personnes qui ont été tuées au Kenya. Donc, des terroristes qui ont choisi des non-musulmans, donc surtout des chrétiens, sur tous les 147, qui ont été tués. Et le même jour, on a eu aussi, et peut-être ça, c'est peut-être pas noté aussi bien, mais on a eu la quasi-signature d'un accord qui est entre l'Iran et les autres puissances du monde. Un accord qui prévoit un accès au nucléaire, bon, civil, entre guillemets, mais avec des fortes chances que ça découle vers un nucléaire militaire. Or, on sait que l'Iran et ses chefs religieux ont pour vocation de détruire Israël, de détruire le peuple juif. Donc, on a rien que cette semaine, là, avec le 2 janvier, le jeudi 2 avril, on a eu des exemples très forts de choses qui vont mal dans le monde. Mais on va voir que même si on vit dans un drôle de monde où le bien-être s'accroît, on est dans un pays occidental, notre bien-être s'accroît, mais aussi la misère s'accroît. Les deux vont en même temps ensemble, et c'est bizarre. On penserait que non, il faudrait que l'un baisse. Et certains voudront que toutes ces choses, tous ces maux, tous ces problèmes dans le monde sont des choses qui ont toujours existé. Et depuis la nuit des temps, quelque part, ils ont raison. On a toujours eu de la violence, des famines, des meurtres depuis la chute d'Adam et Ève. On a eu ces choses qui se sont passées. Alors d'autres vous diront que le progrès scientifique, que les efforts humanistes, que peut-être une monnaie mondiale ou un gouvernement mondial pourraient remédier à la plupart de ces problèmes. Peut-être qu'ils n'ont pas tort. Et peut-être qu'ils souhaitent un jour atteindre une sécurité dans ce monde, une paix dans ce monde. Mais la Bible dit que ça serait de toute façon une fausse sécurité, une fausse paix. Et on va voir pourquoi. Mais chers frères et sœurs en Christ, rappelez-vous que Jésus lui-même a parlé de ces choses. Et on va lire en Matthieu 24, si vous voulez bien ouvrir avec moi, Matthieu 24, versets 3 à 14. Juste après avoir prophétisé de la destruction du temple, Jésus nous livre plusieurs détails significatifs concernant son prochain retour. On sait que toutes ces choses qui vont mal dans le monde vont être un jour résolues. J'affiche à l'écran aussi en même temps pour ceux qui veulent lire avec moi, genre c'est un petit peu plus petit. Lisons ensemble. Il s'assit sur la montagne, donc Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, comme les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera aux tourments. Et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, vous voyez, Jésus parle déjà de ces choses. On pourrait se dire, est-ce que Jésus va revenir en 2015? Est-ce qu'il va revenir en 2050? On ne sait pas. On ne sait ni l'heure ni le jour. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, qu'il faut veiller et qu'il faut persévérer dans la foi et qu'il faut évangéliser. Toutes ces choses sont liées au fait que nul ne sait le retour, la date du retour de Jésus. Et avant même de parler du second retour de Christ, d'ailleurs, on pourrait même parler d'abord de l'enlèvement, qui l'enlèvement de l'Église, ou même des 7 ans de tribulation qui seraient liés juste après cet enlèvement. Mais avant même de parler de ces choses à nos voisins, à nos collègues qui ne sont pas chrétiens, il faudrait déjà leur parler du temps de grâce actuel que nous vivons. Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut. On vit dans une époque de l'histoire où l'Église est sur terre, où chacun de nous est appelé à être ambassadeur de Christ. Alors, on va parler un petit peu du terme ambassadeur. Qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur ? Alors, un exemple d'un ambassadeur classique, c'est donc quelqu'un qui est représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger. Il est accrédité auprès du chef d'État. Il représente à l'étranger l'image de son propre pays et il dirige la mission diplomatique dans ce pays. Et c'est très intéressant cette définition du Larousse que j'ai pris dans le dictionnaire, parce que si on prend l'exemple d'un ambassadeur quelconque, on va dire un ambassadeur bien connu dans cette église, mais vous l'êtes tous, il n'y a pas que lui, hein. On est tous des missionnaires, on est tous appelés à être des ambassadeurs de Christ. Mais regardez la définition d'un ambassadeur de Christ. C'est une personne de citoyenneté céleste qui représente le royaume de Dieu sur terre. On n'est pas de ce monde. C'est une personne qui garde les commandements de Christ. C'est une personne dont la mission est de témoigner de la vie de Christ. Ok ? Donc, comme ça c'est clair et les bases sont posées. Mais voyez-vous, le fait que Jésus revient bientôt doit nous pousser à parler de sa première venue et de son œuvre. Il y a beaucoup de monde sur Terre qui ont même pas entendu de sa première venue. Alors avant même de leur dire attention, il revient bientôt, il faut leur annoncer la mauvaise nouvelle, qu'ils sont pécheurs et qu'ils sont condamnés face à la justice de Dieu, mais que Dieu est un Dieu de justice, mais aussi un Dieu d'amour, et qu'il a prévu un remède pour notre péché, et que ce remède passe par Christ. Ok ? Alors, à qui partager l'évangile ? À trois catégories de personnes. Première catégorie, bien sûr, les personnes qui n'ont jamais entendu parler de lui. Il y en a encore dans des nations très reculées dont c'est le cas. Deuxième catégorie, si vous voulez noter, il y aura beaucoup de choses à noter plus tard, mais toutes mes notes seront disponibles à ceux qui veulent. Deuxième catégorie, ceux qui ont une fausse conception de Jésus à cause de la culture environnante, à cause de faux enseignements ou à cause d'une fausse religion dans laquelle ils sont tombés. Et on sait qui est l'auteur des fausses religions, on sait que c'est l'ennemi de nos âmes, c'est Satan. Satan ne veut pas que l'homme soit attiré par la vérité, soit attiré par la lumière. Il préfère trouver tout un stratagème d'idéologie ici et là pour que l'homme soit enfermé dans son péché, enfermé dans l'obscurité, et qu'il soit loin de Christ et que l'homme chute avec Satan. Satan est un lion déchu. Il est blessé, il est mourant, mais il essaye d'agripper le maximum de personnes qu'il peut. Et il faut bien comprendre cette stratégie-là. C'est pour ça qu'on a le mormonisme, on a les témoins de Jéhovah, on a l'islam, on a les religions hindouistes, tout ça. Elles sont des faux moyens d'arriver à la vraie sécurité, à la vraie assurance du salut, à la vraie paix. Seul Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Donc troisième catégorie, on en a parlé de deux, mais la troisième catégorie, c'est ces personnes qui ont décidé de ne pas s'intéresser à lui, à Jésus, car de façon générale, ils veulent être les maîtres de leur propre vie. Ils ne veulent pas avoir des comptes à rendre à Dieu. Alors ils ont peut-être entendu parler de l'Évangile dans un pays historiquement catholique comme la France. Bon, il y a des gens qui ont été au catéchisme, ou dont les parents, les grands-parents ont un arrière-plan catholique. Ils se croient être chrétiens, ils se croient sauvés. Ils vont peut-être à la messe maintenant, le dimanche de Pâques. Ils y vont aussi au dimanche de Noël. Mais il n'y a pas une relation vivante qui est en eux. Ils ont pas une croissance spirituelle. Or, une plante qui ne grandit pas, c'est une plante qui est morte. Et malheureusement, en France, on a 70% de gens qui sont catholiques, et parmi ces catholiques, j'en connais pas beaucoup qui sont des chrétiens fervents et fidèles dans la parole. Alors c'est aussi des gens comme ça qu'on peut atteindre. Il y a beaucoup de gens qui sont soit athées, soit qui ont une fausse idée de qui est Christ et qui ne sont pas encore sauvés. Donc trois catégories de personnes à atteindre. Et c'est pour ça que j'aime le ministère d'ITA, que vous connaissez bien dans l'Église, parce que c'est un ministère qui va enseigner la parole de Dieu et la théologie pour la mise en pratique. Et les étudiants qui bénéficient de ce ministère vont à leur tour atteindre ces trois catégories et vont avoir des bonnes armes pour les atteindre. Alors, on n'est pas appelé à être des chrétiens seulement du dimanche. On est aussi appelé à être des chrétiens qui s'investissent dans la parole et qui sont armés par la parole aussi, qui est notre seule arme offensive. Toutes les autres sont des armes défensives et la parole de Dieu est une épée à double tranchant. C'est la seule arme offensive qu'on a. Donc c'est pour ça qu'il faut bien la connaître, bien la manier et bien l'appliquer dans nos vies et montrer l'amour qu'on a pour les autres. Okay ? Alors le texte principal de ce matin se trouve dans Jean 17. On peut lire ensemble Jean 17. C'est un texte qui de Jésus juste avant la passion, donc la souffrance qu'il a vécue. En Jean 17, on va juste lire les 5 premiers versets. C'est des versets qui sont liés à ce qu'il va faire et être. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Verset 4, très important. « Je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Parole du Seigneur. Je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et bien sûr, on connaît tous ce verset de Jean 19, verset 30. Les derniers mots de Jésus, les tout derniers mots, tétélestai en grec, tétélestai, tout est accompli. Ces mots sont d'une importance primordiale pour nous, ils expriment le fait que le sacrifice de Jésus était suffisant pour sauver toute âme repentante, du moins pécheur au plus grand des pécheurs. Rappelez-vous les deux brigands à la croix. Ils avaient sûrement commis des crimes horribles pour être là où ils étaient. Et l'un s'est moqué de Jésus et l'autre a cru. Et quelques minutes plus tard, il était au paradis avec Jésus. Amen. Si on considère toute l'histoire humaine, l'âme de Jésus-Christ sur la croix est l'accomplissement du plan et de toute la pensée de Dieu. Jésus est venu afin de mourir sur la croix. Il n'est pas venu pour apporter juste une amélioration de l'homme ou un message politique, idéologique. Il est venu pour porter sur lui tous les péchés de tout croyant qui placerait sa foi en lui. D'ailleurs, la Bible dit en 1 Corinthiens 1, 18 « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Alors que jamais nous ne considérions Jésus comme un pauvre martyr. C'est pas qui il est. Il n'est pas juste un pauvre martyr. Sa mort n'est pas quelque chose qui lui est simplement arrivé. Ah zut, les Romains étaient vraiment féroces à l'époque et c'est tombé sur lui au lieu de Barabbas. Non, tout ça faisait partie du plan de Dieu. Sa mort est la raison même de sa venue parmi nous. Est-ce que vous réalisez ça ? Sa mort, c'est la raison même de sa venue parmi nous. L'idée qu'on se fait du pardon ne doit pas se limiter à la pensée suivante. Oh, Dieu est notre Père, il va nous pardonner parce qu'il nous aime. Même si quelque part c'est vrai. Mais c'est une sursimplification de l'évangile, si on peut dire. C'est vraiment trop simplifié les faits. Et quelque part, ça contredit la vérité révélée par Dieu en Jésus-Christ. Cette simplification, elle fait passer la repentance, la croix ou la résurrection comme des choses qui n'étaient pas nécessaires. On sait que Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice et quelqu'un a dû payer une rançon pour tous nos casiers judiciaires qui étaient plein de pages noircies par nos péchés. Et on n'était pas encore nés à l'époque, mais Jésus savait qu'on naîtrait et qu'en 2015, je vous parlerai ici et qu'on se rappellerait qu'on compte des pécheurs. mais on est des pécheurs pardonnés grâce à lui. Amen. Et qu'est-ce qui quelle est la chose qui coûte le plus cher au monde, à votre avis? Un yacht du Qatar? Un stade de foot en Arabie Saoudite? Non, non. La chose qui coûte le plus cher au monde, c'est le péché. C'est ce qui a coûté le plus cher à Dieu. Il a dû donner son propre fils pour payer notre rançon. On n'aurait jamais eu assez d'années de vie pour pouvoir payer nos péchés à Dieu. Si chaque péché coûtait 10 millions d'euros, par exemple, jamais on n'y arriverait. On ne pourrait pas. Il est impossible de satisfaire Dieu juste en se battant sur nos propres efforts. Impossible. Et c'était d'ailleurs un peu un des buts de la loi, de prouver notre incapacité à plaire à Dieu juste sur nos propres efforts, juste en se basant sur notre propre justice. Impossible. Impossible. Il n'y a que Jésus qui a accompli toute la loi juive parfaitement. Okay ? Jésus s'est abaissé pour nous volontairement et temporairement. Je lis dans Hébreux 2:9. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Et mes amis, le plus grand cri de triomphe ayant jamais résonné dans le monde, c'est pas ce fameux 12 juillet 1998. La plupart d'entre nous, on a sûrement vu ce match. C'est pas à cette époque-là que le plus grand cri de triomphe a eu lieu. Non, le plus grand cri de triomphe ayant jamais résonné s'est fait doucement entendre il y a 2000 ans à la croix de Jésus-Christ. Et ce cri de triomphe, c'est « Tout est accompli ». C'était même pas perceptible. À peine les personnes qui étaient au pied de la croix pouvaient l'entendre. « Tout est accompli ». C'est les dernières paroles de Jésus. Et ça, c'est le triomphe sur la mort. C'est le triomphe du Fils de Dieu sur le péché qui nous donnait la séparation éternelle avec Dieu. C'est la phrase finale dans le plan de rédemption de l'humanité. En grec, elle signifie « tout a été payé ». Tout a été payé. Toute chose qui tenterait d'amoindrir ou de dissimuler la sainteté de Dieu à travers peut-être une vision distordue de son amour et en ignorant sa justice, quelque part, elle viendrait contredire la vérité de Dieu révélée en l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Et que jamais dans nos pensées on s'imagine, voilà, Jésus, il est de notre côté, juste comme ça, les bras croisés, avec un regard un peu défiant envers le camp de Dieu. Non, Jésus a émané de Dieu, il est venu pour nous secourir, il est venu pour nous sauver, il est notre avocat, il est notre intercesseur, mais il est devenu lui-même péché pour nous. Et il ne l'a pas fait juste par sympathie, il l'a fait vraiment par amour profond. Et Jésus, c'est par décret divin qu'il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et j'ai essayé de trouver une image en français, mais bon, celle-là est en anglais. Elle met sur la croix tous nos péchés. Et il y en a peut-être une cinquantaine ici. Si vous connaissez un peu l'anglais, vous pouvez en lire la plupart. Et on est tous coupables de la plupart de ces péchés, d'ailleurs. Mais 2 Corinthiens 5:21 nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et c'est une image qui est très forte et qui symbolise très bien ce verset. 2 Corinthiens 5:21, que vous pouvez noter. Et lui qui a fait la partie énormissime du boulot, entre guillemets, il nous laisse une part de responsabilité. On n'est pas juste là avec nos bras croisés, non. Notre responsabilité, c'est de nous repentir et de croire en lui. Deux choses primordial. Notre part à nous, c'est de réaliser l'immense signification de ce qu'il a porté à la croix, l'immense coût qu'il a dû payer pour porter sur lui tous nos péchés passés, présents et futurs. Okay ? Et une fois qu'on réalise cela, on ne peut pas rester indifférent. Si quelqu'un entend ce message, la personne ne peut pas rester indifférente. Et vraiment, que la conviction du péché produise en nous une profonde, véritable et authentique repentance. Une repentance qui va être transformatrice par le Saint-Esprit et qui va utiliser pour nous amener de plus en plus en conformité avec les enseignements du Seigneur. Une repentance qui à cause de l'amour que ça produit en nous pour Christ, et un amour qui d'un coup produit une obéissance pour lui, ben, que ça va nous faire devenir de meilleurs imitateurs de Christ. Vous voyez tous les fruits de la repentance. Alors dans mon église, j'ai un jeune que Dina et d'autres connaissent, il s'appelle Chafan, et c'est le gars le plus rapide que je connaisse. Il est athlète, il fait du 100 mètres et tout. Et je vais l'utiliser pour cette prochaine illustration. C'est notre vie avec Christ. Et c'est un graphique qui va être une illustration pour nous aider à comprendre une portion importante de théologie. Alors, Jésus est là au début de notre vie en Christ, quand on vient à la foi en lui. Il est là au début de la course. C'est lui d'ailleurs qui nous justifie. Et à cette première étape, imaginez, c'est lui qui tire le coup de feu et on commence à avancer avec lui. C'est cette étape-là qui est importante. Ensuite, on a l'étape la plus longue. C'est cette étape, la deuxième étape, l'étape de sanctification. On peut passer des années et des années et des années dans cette étape. Et Dieu va nous affiner comme l'orfèvre qui affine un beau plat en or dans le feu pour enlever toutes les impuretés. Ça, c'est le milieu de la course. Et il arrive qu'au milieu de la course, on trébuche sur un tronc, on trébuche sur une peau de banane, qu'on chute. Mais Dieu, Jésus, est là pour nous relever. On sait qu'il est là pour quand on a le genou à terre, il nous ressaisit. Il y a toujours la place pour la rédemption, la restauration, après tomber dans le péché. Okay ? Et on continue à courir, on continue à courir. Et la ligne d'arrivée, Jésus est aussi là. Et d'ailleurs, on est appelé à fixer nos yeux à Christ. On est appelé, comme Paul, à fixer nos yeux sur la ligne d'arrivée, sur le prix qui nous attend. Et cette étape-là, on la connaîtra bientôt, mais c'est la glorification. Vous voyez, entre justification, sanctification et glorification, c'est les trois étapes du salut, en fait. Alors, on va les voir un petit peu juste en détail. Well done, faithful servant. Mais vous voyez, on parle de passé, de présent, de futur. On peut aussi parler du fait que nous avons été sauvés. À un point précis de notre vie, nous sommes en train d'être sauvés actuellement. Et nous serons sauvés et glorifiés auprès de lui. Vous voyez, on a été justifiés du châtiment du péché. On est sauvés du pouvoir du péché. Et bientôt, quand on aura des corps glorifiés et incorruptibles, on sera sauvés de la présence même du péché. On sera incapable de pécher quand on sera avec nos nouveaux corps éternels et incorruptibles. Incapable de pécher, vous vous rendez compte ? En ce moment, le pouvoir du péché n'a plus prise sur nous, mais on a toujours peut-être des chutes ici et là, vous comprenez ? Alors, la justification, c'est une expérience unique. La sanctification, c'est une expérience qui est continue. Et la glorification, ça sera une expérience éternelle. On parle d'un événement positionnel, continuel et final. Dieu a œuvré pour nous. Dieu, actuellement, il œuvre en nous. Et bientôt, on connaîtra l'œuvre ultime de Dieu en nous. Dieu, ultimement, veut que nous soyons semblables à ce qu'était la création à la chute. Adam et Ève dans un élément parfait et de manière parfaite aussi. Donc, la justification est parfaite dans cette vie. La sanctification, il nous arrive d'être encore imparfait. Mais notre glorification sera parfaite dans la vie à venir. Vous voyez ces trois étapes ? C'est une centaine de pages de manuels théologiques synthétisés en un écran. Mais c'est important de comprendre ces choses avant de parler de la résurrection. On va en parler maintenant. Mais rappelez-vous que, il y a un coût à suivre Christ. Vous voyez ? Ici, pendant l'étape de sanctification, surtout, notre famille va nous rejeter, nos amis vont se moquer de nous. On va avoir des doutes, on va chuter, mais Dieu nous relèvera. Donc chacun, on paye certainement un coût quand on suit Christ. Un juif comme moi qui devient chrétien, ma famille, ils ont fait un faux enterrement et ils ont dit ah voilà, bon, lui il est plus de notre famille, il prend le Dieu des païens, il croit en ce Jésus, on n'a pas entendu parler de lui, mais si, il est dans la Torah. La Torah annonce la venue du Messie. Et donc mon job, c'est d'annoncer l'évangile aux juifs aussi. Mais j'ai dû payer un coût en devenant chrétien. Le rejet de ma famille, par exemple. Mais il ne faut jamais oublier que celui qui a payé le coût le plus cher, le coût ultime, c'est bien Jésus. Il l'a payé à la croix, pas seulement pour mes péchés de 2015, mais pour ceux de 2016 et 2017, et pour les vôtres. de ces 10 dernières années, de ces 40 dernières années. Il a porté tout ça à la croix. C'est lui qui a payé le coût le plus cher. Et en ce jour où on célèbre notre Sauveur, n'oublions pas que nous, ses disciples, nous prendrons part à la résurrection finale. Même si il va arriver à certains d'entre nous de s'endormir en Christ. Peut-être que certains d'entre nous vont être enlevés. Si Jésus revient dans 5 ans ou dans 10 ans, on sera encore vivant et on ne connaîtra même pas la mort physique que la plupart des gens ont connue. Mais soit on s'endort en Christ, soit il viendra nous chercher. Et la résurrection de Christ a une importance centrale dans le Nouveau Testament, pour 5 raisons. 5 raisons pour lesquelles elle est très importante, cette résurrection. Et notre frère Pierre en a parlé un petit peu. Premièrement, elle affirme la divinité de Christ qui est fils de Dieu. Deuxièmement, elle est le sceau d'approbation de Dieu pour le ministère de son fils. Troisièmement, elle démontre la puissance de Dieu. Quatrièmement, elle est la base de notre espérance en tant que chrétien. Et cinquièmement, elle ouvre la voie à la future résurrection des croyants. Et je vais parler plus profondément de 6 grands aspects de la résurrection. Le premier, c'est le fait que l'Ancien Testament a préconfiguré la résurrection du Messie. Alors qu'est-ce que je veux dire par préconfiguré ? Ça veut dire qu'il y a eu des exemples dans l'Ancien Testament de résurrection. Alors est-ce que vous pensez à une histoire précise, par exemple ? Oui ? Jonas, très bien. Oui. Quoi d'autre ? Une histoire de l'Ancien Testament qui parle de résurrection ? Ou qui est proche Oui ? Je ne sais pas si j'ai entendu, mais j'ai cru entendre Abraham. Abraham et Isaac, c'en est une aussi. Et une rédemption, comme une résurrection. On peut aussi le prendre comme ça. Alors, en Genèse 22, c'est donc le récit. Je ne sais pas si vous connaissez la série La Bible. Elle est passée sur W9, je crois, un truc comme ça. Et c'est très bien fait parce qu'on voit Abraham qui est vraiment sur le point de sacrifier son fils Isaac, mais l'ange l'arrête. Et c'était une preuve que Dieu attendait pour Abraham savait que même s'il allait tuer son fils, Dieu il allait pas mentir. Dieu lui avait déjà promis une descendance. Alors soit il allait lui donner un autre fils, ou soit Dieu allait lui-même faire la résurrection d'Isaac. Donc c'est pour ça que Hébreux 11 parle de cette foi d'Abraham. Et on peut lire ça dans Hébreux 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Et il aurait pensé ça pour Isaac. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. On parle de ça. Alors, notre sœur nous a parlé de Jonas, exactement, Jonas 1 et 2, les deux premiers chapitres de Jonas, un livre qu'on lit pas souvent, mais tous les enfants connaissent l'histoire. Le prophète de Dieu, donc, a été relâché par le grand poisson pour continuer son ministère et apporter l'évangile à Ninive. Et il y a juste 2-3 semaines, les plus grands monuments de Ninive ont été détruits par l'État islamique. Il y a un mois et demi, à Nimrod, donc la ville même où était la tour de Babel, l'État islamique a détruit toutes les architectures qu'il y avait. Donc Nimrod et Ninive sont détruits. Le peu qu'on avait pour l'archéologie est détruit. Je pense à ça parce que c'est des villes que j'aurais voulu visiter et qui sont pas en Israël. Mais passons. Alors Jésus parle lui-même de Jonas. Vous savez ce que Jésus dit en Matthieu 12 ? Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et donc voilà, on a ces préconfigurations de la résurrection. Alors deuxièmement, la résurrection du Messie a été annoncée et prophétisée dans l'Ancien Testament. Là, on parle de nombreux passages que je partage au peuple juif pour leur prouver que la Torah parle bien du Messie, de son identité, de sa mission et du but de sa mort. Dont il allait mourir, etc. Alors bien sûr, Ésaïe 53 est un passage connu. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ça, c'est un passage, un chapitre entier qui parle du Messie, le serviteur souffrant. C'est un Messie qui allait souffrir et qui aussi allait être glorieux, mais à deux époques différentes. Il est venu une première fois pour souffrir et il reviendra la deuxième fois bientôt, et là, il sera glorieux. Il est venu comme fils de Joseph et il reviendra comme fils de David, la parole de Dieu nous dit. Okay? David aussi avait prophétisé dans Psaume 16. Quand ce psaume qui parle entièrement de la crucifixion, avant même qu'elle fût inventée par les Romains, des siècles auparavant l'invention de ce système de mise à mort, David décrit en détail à quoi la crucifixion ressemble. Et il parle du sein de l'Éternel en disant: car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettrais pas que ton bien-aimé voie la corruption, le corps qui devient un squelette. C'est bien du Messie dont il est question. Et ensuite, un passage du Nouveau Testament que j'ai mis quand même, qu'on a lu, non, je ne sais pas si on l'a lu celui-là, 1 Corinthiens 15, on l'avait étudié ce chapitre entier l'an passé. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, donc selon l'Ancien Testament, entre guillemets, à l'époque où Paul écrit. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon l'Ancien Testament, selon les Écritures que j'utilise à l'époque où j'écris, selon les Écritures. Okay. Troisième point, Jésus lui-même a annoncé sa résurrection. Là, j'ai trop de passages, alors j'en ai mis quelques-uns, j'en ai mis cinq, on peut les lire ensemble. Matthieu 16, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Matthieu 17, 9 nous dit, Jésus qui parle, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Matthieu 20 nous dit, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Matthieu 26 à nouveau, mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et on passe dans Jean, chapitre 2. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en trois jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc, J'ai beaucoup d'autres passages que j'aurais pu utiliser aussi. Mais... Quatrième point, les morts qui reviennent à la vie constituaient un signe annonciateur de la résurrection de Jésus. Alors, dans le Nouveau Testament, quels exemples vous avez de résurrection avant celle de Jésus? Il y a le plus connu, oui. Lazare, oui. En Jean 11. Et il y a Luc 7 et Matthieu 27 qui nous parlent aussi d'autres résurrections. Mais là on n'a pas les noms des gens. On sait que c'est des miracles de résurrection. Et dans l'Ancien Testament, alors, est-ce que vous vous souvenez, il y a au moins deux, trois exemples de résurrection? Ouais. Élie et Élisée, exactement. Oui. Alors, dans 1 Roi 17, il y a Élie qui ressuscite le fils de la veuve de Sarepta. Et donc, ensuite, dans 2 Rois 4, c'est vrai qu'il y a Élisée qui ressuscite le fils de la... Sunamit, je crois que ça s'appelle, une femme de Sunam. Ouais. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres auxquels on peut penser, mais on voyait déjà que c'était des signes de la puissance de Dieu, que Dieu fasse ça à travers Élie, Élisée ou Jésus ou les disciples. On voyait la puissance de Dieu capable de ramener à la vie un être humain qui peut-être quelques années plus tard, de toute façon, allait à nouveau mourir, mais c'était déjà une résurrection temporaire, si on peut dire. Et à l'opposé, la résurrection de Jésus et celle qu'on va tous recevoir, cette résurrection qui est à venir pour tous ses disciples, elle va nous donner un corps régénéré, un corps incorruptible, puissant, et avec une vie éternelle et glorieuse. Et ça, c'est une promesse de Dieu. Et on sait que Dieu, il ne ment jamais à aucune de ses promesses. Donc on a cette ferme assurance, ok? Cinquièmement, la résurrection de Jésus est indéniable. Ça, c'était un peu l'objet de ce qu'on a étudié l'an dernier, vous vous souvenez? On s'était appuyé sur 1 Corinthiens 15 et j'avais fait une liste de 10 preuves indéniables du fait que la résurrection était non seulement historique, mais qu'elle avait été prévue et quelle était la base de notre espérance. C'était mes notes de l'an dernier que je vous ai envoyées, mais je peux vous les redire si ça vous intéresse. Alors, il y a eu plusieurs étapes dans cette résurrection de Jésus. Elle a été précédée par la souffrance et la mort. Je vais un petit peu plus vite parce qu'on n'a pas le temps de tout lire les passages, mais vous savez que ce que je rapporte est de la Bible. La résurrection s'est passée un dimanche, le premier jour de la semaine pour les Hébreux. Même en Israël, l'Israël moderne, hein, dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Elle était annoncée par des anges. Les disciples ont eu du mal à y croire. Les disciples ont eu la preuve de cette résurrection et en ont été convaincus. On voit la puissance de Dieu parce que c'était des femmes qui apportaient la bonne nouvelle en premier. Et à l'époque des Juifs de il y a 2000 ans, il fallait 4 femmes pour qu'un témoignage soit accrédité. Alors qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a juste le besoin d'un témoignage d'une personne, homme ou femme, et c'est bon. Mais à l'époque, la femme était vraiment rabaissée, malheureusement. Et on voit le ministère énorme de Jésus auprès des femmes. Il y a eu d'énormes exemples de Jésus qui intercède auprès des femmes et qui montre la repentance, la rédemption qui est possible en lui. Le Christ est ressuscité est apparu à un grand nombre de personnes, aux disciples, à Marie-Madeleine, à 2 personnes sur la route d'Emmaüs, à Pierre, à Jacques, à Paul, à plus de 500 témoins oculaires, juifs et non-juifs, d'Israël et de toute nation. Et on a même l'historien Josephus, ou Joseph en français, qui rapporte de ces choses. Donc on a des sources extra-bibliques qui nous prouvent qu'il y avait bien 500, 600 personnes qui parlaient de ces choses parce qu'ils avaient vu, ils étaient des témoins oculaires du Christ ressuscité. On n'avait jamais vu un homme, sur une croix, descendre de la croix et revivre et être en parfaite santé. C'était impossible. C'était la première fois que quelqu'un était vainqueur de la mort pour toujours. Okay. Et la résurrection a été suivie par la montée en gloire de Jésus-Christ. Ça, c'est le dernier point. C'est ce qui s'est passé 40 jours après la résurrection. Okay. Donc tout ça, c'est des passages que je vous laisse, mais si vous n'avez pas le temps de les écrire, je vous donne mes notes, il n'y a pas de problème. Alors, notons au passage que la loi de Moïse prévoyait une offrande des premiers fruits. Les premiers fruits de la récolte, c'était toujours en l'honneur de l'Éternel. C'était le meilleur de la récolte. On le donnait, c'était un dixième des récoltes, et on le donnait pour honorer l'Éternel. Et ça fait 35 siècles que les fermiers israéliens et juifs le font. Ils donnent le meilleur de leur récolte pour le Seigneur. Bon, on ne peut plus le faire maintenant pour le temple, mais c'est dans l'idée. Donc on fait des dons en argent maintenant chez les juifs. Alors, ces premiers fruits étaient la garantie de la récolte complète à venir. C'était quelque chose de merveilleux aussi de voir que dans le Nouveau Testament, on a des passages qui mettent le lien entre la résurrection de Jésus-Christ comme étant le premier fruit du rassemblement du peuple de Dieu quand Jésus reviendra. Jésus-Christ est le premier fruit de la résurrection. Okay. Et sixièmement, la résurrection a une réalité spirituelle dont les croyants peuvent bénéficier dès à présent. L'évangile apporte une nouvelle vie à des milliers d'hommes, de femmes, d'adolescents, d'enfants chaque jour. Chaque jour, on est des milliers à être ajoutés au peuple de Dieu. On est des milliers à avoir notre nom écrit dans le livre de vie. Chaque jour. Et surtout en Chine ou des pays émergents comme ça avec le christianisme qui rentre en force. Et la Bible enseigne 3 grandes vérités par rapport à la résurrection spirituelle qui s'opère en nous. Une résurrection qu'on peut sentir. Premièrement, Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Et ça, c'est vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une forme de résurrection. C'est spirituel, c'est pas encore physique, mais spirituellement, c'est vrai. Dieu nous a rendus vivants avec Christ. Il est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est les versets 8, très connus. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Deuxièmement, Dieu nous a fait passer de la mort à la vie. Et ça, c'est vrai aussi, on l'expérimente aujourd'hui. On lit dans Jean 5, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et troisièmement, les croyants continuent à vivre par la puissance de Christ ressuscité. C'est ce verset de Philippe 4 qui nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et ça, c'est une réalité spirituelle de résurrection en nous. Okay ? On a aussi 2 Corinthiens 5 qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et bien sûr, Galates 2, 20 qui nous dit « J'étais crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Mes amis, le fait d'être rendu vivant avec Christ va produire en nous la croissance de ces 6 choses. Et je vais terminer avec ça. La croissance de 6 choses en nous. Et là, on parle au niveau spirituel. Premièrement, le fait d'être rendu vivant avec Christ va faire croître nos désirs spirituels. Nos désirs spirituels. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Deuxièmement, notre assurance spirituelle va croître. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3. Troisièmement, notre appétit spirituel va grandir aussi, mes frères et sœurs. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. 1 Pierre 2 nous dit ça. Donc là, on parle de lait spirituel, mais bon, une fois qu'on devient mature, on a besoin aussi de viande spirituelle. Hein. On veut grandir en Christ. C'est pour ça que la lecture de la parole de Dieu chaque jour est importante, parce qu'elle nous donne cette viande dont on a besoin. Une fois qu'on n'est plus des enfants spirituels, une fois qu'on n'est plus juste à quelques semaines d'avoir entendu la bonne nouvelle. Y a certains chrétiens, ça fait des années qu'ils sont en Christ, mais y en a qui restent un peu au niveau du lait maternel. Et la parole de Dieu nous invite aussi à avancer avec la viande spirituelle. Quatrièmement, notre engagement auprès de Dieu va grandir grâce au fait d'être rendu vivant avec Christ. Et je lis en Romains 6, « Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. » Imaginez mes doigts, je pourrais faire des choses mauvaises, mais je peux aussi jouer du piano pour mon église. Je peux aller bénir les pauvres ou les gens qui ont besoin d'être bénis. Cinquièmement, notre amour pour nos frères et nos sœurs en Christ va grandir. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, et celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et sixièmement, notre caractère spirituel va grandir. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. On a aussi Galates 5, les fruits de l'esprit que vous connaissez. Et ensuite, mon point final, c'est le fait que la résurrection des morts aura lieu. Tous les morts, qu'ils soient en Christ ou pas en Christ, elle est prophétisée en Daniel 12. Elle se produira à la seconde venue de Christ. Elle concerne ceux qui sont morts en Christ et ceux qui sont morts sans Christ. Mais la Bible parle spécifiquement de la résurrection des croyants en Christ aussi. Et ce sera une résurrection pour la vie éternelle. Elle nous permettra d'être complètement unis à Jésus-Christ. Elle nous conduira à devenir comme Jésus-Christ. Elle est la future espérance des chrétiens. Elle est la résurrection des croyants en Christ. Elle nous motive à la persévérance et à une vie de sainteté. Elle nous motive à l'endurance lors des moments de souffrance. Et mes frères et sœurs, peu importe les circonstances que vous vivez, que nous vivons, souvenez-vous toujours que Dieu est toujours là et que rien ne le surprend. Rien ne le prend par hasard et rien ne va à l'encontre de son timing. Selon son timing, il met en place son plan parfait. Et aucune puissance humaine ou spirituelle n'a pu bloquer son chemin. C'est important de s'en rappeler. Et bien sûr, pour les premiers disciples chrétiens qui avaient vu Jésus mourir à la croix le jour de la Pâque juive, donc à l'époque de 1 Corinthiens 11, quand on a fait la Sainte-Cène, c'était vraiment le dernier repas de Jésus. Et quelques heures après, il était livré aux mains des pharisiens. Alors c'était c'était un moment terrible pour les disciples. Mais à la fin du week-end, donc le dimanche, quelle joie pour eux de voir leur sauveur ressuscité. Et en effet, le Messie attendu depuis si longtemps est non seulement venu, mais à travers lui, nous avons expérimenté la libération, l'exode et la rédemption sur une échelle bien plus grande que celle qu'a connue le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Je sais que toutes les familles de la terre sont bénies à travers Jésus-Christ. Je sais qu'il a payé pour nous à la croix. Je sais que grâce à lui, tout est accompli. Que c'est par sa résurrection que tout cela a été possible. Et en ce jour de Pâques, rappelons-nous les paroles de Job. Je sais que mon Rédempteur vit. Amen.